Bon, ben bonjour à tous. Bienvenue à Présence Terrain, le podcast où on reçoit des intervenants, puis des gens du communautaire et des qui sont dans l'intervention sociale pour nous parler un peu de leur parcours, c'est quoi leur réalité, comment ils vont. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment content. Là, on parlait beaucoup avant le podcast déjà. On est avec Isabelle Dauplaise, qui est directrice de Centre des jeunes Boys Vio, aussi de GCC La Violence, puis qui est aussi impliquée comme présidente du CA de la cuisine collective de Schlager-Maisonneuve. Fait qu'on va avoir des choses à parler. Il y a beaucoup de stock. Puis, fait que dans le fond, bienvenue Isabelle.
Merci.
Merci d'avoir accepté l'invitation.
Ça fait plaisir.
On se connaît un peu du temps des cuisines collectives.
Ouais.
On s'était croisés là-bas, puis aussi j'avais travaillé à l'office, puis on s'était croisés aussi dans les plans HLM. Bien, comment ça va, premièrement?
Ça va bien.
Oui?
Ça va bien. On est au mois d'août, donc 4 mois de contexte COVID.
Ouais.
Un peu fatigué, mais bon, les vacances arrivent, donc ça va faire du bien d'aller se reposer.
Oui, ouais. Ben, c'est ça. Juste avant qu'on commence, tu me disais qu'en temps de COVID, tu as fait des heures d'overtime.
Oui, bien, c'est ça. En fait, moi, je gère 2 organismes.
Ouais.
Je suis à temps partiel dans les 2 organismes, donc okay. À 19 heures semaine. Sauf qu'avec le contexte COVID, il y a eu rapidement des besoins, entre autres en termes de dépannage alimentaire. Donc, tout le monde s'est comme placé sur un pied d'alerte. Tout le monde était dans l'urgence. Donc, ça a été de la gestion quasi 24-7. Facilement, là, j'ouvrais l'ordinateur à 6 heures le matin, puis je refermais tout ça, il était 11 heures le soir.
Okay.
Parce que au-delà de la gestion de l'organisme des résidents dans les HLM, ben il y a quand même la vie quotidienne
qui
continue. Donc, c'est ça, j'ai fait comme pas loin de 500 heures supplémentaires, là, réparties dans 2 organismes, évidemment.
Oui.
Mais tout ça en 3 mois, parce que c'était nécessaire, puis qu'il y avait énormément de besoins. Tout à l'heure, on va parler des milieux dans lesquels j'évolue. Bien, au-delà de dire on a des services à offrir, il y avait tout un support et un soutien que l'on devait donner aux résidents dans les HLM aussi. Donc, ça, c'était en continu, là.
Puis, est-ce que les gens, est-ce qu'ils venaient vers vous? T'sais, parce que là, il y a eu comme une période où, tu sais, on était un peu... on était confinés.
Ouais.
Fait que là... T'sais, comment vous faisiez pour aller chercher les gens?
Je peux déjà t'expliquer la structure qu'on a eue pendant le COVID. C'est que rapidement, bon, on se souvient, nous, on a été fermés le 13 mars.
Oui.
Donc, déjà, on est à la mi-du-mois. Donc, déjà, à la mi-du-mois, les gens dans nos HLM commencent à manquer de nourriture. Fait que nous, dès la première semaine, en fait, ça faisait 5 jours qu'on était fermés, qu'il y a déjà des résidents qui disaient « Nous, on manque de nourriture, puis on a peur de sortir de chez nous.
Mmh. »
Puis ça, on le voyait avec nos aînés beaucoup. Donc, déjà, la semaine 1, il a fallu faire une opération d'urgence pour trouver de la nourriture parce que là, tout le monde était fermé, tous les organismes étaient fermés, on ne savait pas trop ce qui se passait, puis on a eu l'obligation de fermer. Donc, rapidement, ça a été dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, au GCC, parce que c'est là que ça a débuté, on a pris de l'argent, même nos budgets, l'équipe s'est mobilisée, ils sont allés faire les files d'attente à l'épicerie.
Okay.
Puis on se souvient, c'était dans la première semaine, donc c'était la folie on doit aller acheter de la nourriture, papier de toilette, ces choses-là. Donc, ils ont cuisiné, ils ont préparé des plats. Nous, on savait les résidents qui avaient besoin. Rapidement, avec l'arrondissement aussi, qui nous a dégagé quelques sous d'urgence. Donc, moi, j'ai réussi à prendre entente avec une épicerie parce que là, on était déjà dans de la limitation au niveau des quantités. Moi, je suis sur la Rive-Sud. Donc, sur la Rive-Sud, je suis allée voir une épicerie.
Je
pense qu'il y avait, peut-être une flexibilité qu'il n'y aurait peut-être pas à Montréal.
Okay, okay.
Parce que c'est d'énormes épiceries sur la Rive-Sud, donc ils sont capables de desservir un énorme bassin. et qu'il y avait encore de la quantité malgré le fait que les gens achetaient beaucoup. Donc, on a accepté que j'achète comme 80 plats congelés du coup. Le dimanche, ça a été une livraison en urgence pour nos résidents. Puis l'idée, c'était de s'assurer qu'il y a de la nourriture assez pour l'équivalent de presque une semaine, ce qui nous laissait une semaine pour se réorganiser à ce moment-là puis de voir qu'est-ce qu'on allait faire pour la semaine suivante. Et c'est dans cette semaine-là que ben, les choses ont commencé à se mettre en place. Entre autres, la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve qui a décidé de cuisiner des repas. Et qui pouvait être remis aux gens. Donc, comment ça fonctionne? C'est que le GCC et le CJBV achètent des portions.
Des portions, okay.
Venaient se greffer des portions gratuites. Bon, ça, c'est un peu plus tard, mais des portions gratuites de la table des chefs. Et il y a des denrées aussi qui venaient se joindre à ça.
Okay.
Donc, on a été dans les premiers, avant que la cuisine l'ouvre vraiment à large. On a comme été le bassin test dans les deux HLM. Le besoin était déjà là. Donc, c'est ça, nous, rapidement, là, dès la semaine 1, mm-hmm. on était dans l'action.
Fait que dans le fond, ça... Ça a fermé, mais vous avez été en activité pareil, dans le fond?
Oui, en fait, c'est que ça a fermé. Les okay. services physiques dans nos locaux ont été interrompus. Le seul moment où on était présent, c'était pour le dépannage alimentaire.
Okay.
On faisait ce qu'on appelle le travail de milieu à distance. Donc, les intervenants par téléphone contactaient les intervenants, les résidents, les familles. Puis l'objectif, ben, c'était d'offrir un soutien.
Mm-hmm.
Hein, c'était vraiment ça, un soutien téléphonique. Et ensuite de ça, bon, il y a eu toute cette période d'isolement-là où on a eu aussi une programmation d'activités en ligne parce qu'au-delà des adultes, il fallait maintenir le lien aussi
ouais.
avec nos jeunes,
ouais.
nos enfants, nos adolescents. Donc, dans les deux organismes, il y a eu un déploiement. Le déploiement en ligne s'est aussi ajusté en fonction de la réponse qu'on avait des jeunes. Je te donne un exemple. Au GCC, ce qui fonctionnait, c'était de faire un Zoom un jeudi soir où on donnait le lien à l'ensemble des gens et là, tu avais des parents, tu avais des jeunes qui venaient se connecter, puis ils pouvaient se retrouver une trentaine de personnes sur le Zoom
okay.
à échanger. Alors qu'à Boysville, mon intervenant avec les adultes offrait des capsules de cuisine. Il faisait des lives sur Facebook de
oui,
cuisine.
Je pense que j'ai vu,
oui,
j'ai vu ça passer.
Jules faisait oui. ça a ultra fonctionné. On a Romuald qui est dans sa vie de tous les jours, qui est beatmaker,
oui.
donc qui offrait le jeudi soir un peu un 5 à 7 raccourcis, mais
ouais.
qui nous montait un beat en direct sur Instagram.
Okay.
Donc, ça a été de l'adaptation comme ça. Et à un moment donné, quand la crise a été un peu moins forte et qu'il a commencé à faire beau, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que là, les gens commençaient à sortir
mm-hmm.
et là,
comme au mois de mai,
d'autres problèmes sont arrivés.
OK.
Donc là, les problèmes entre voisins, des attroupements, on constate une augmentation de la consommation et tout ça. Donc, les intervenants sont retournés sur le terrain, sont allés faire du travail de milieu qui s'apparente au travail de rue, c'est-à-dire mm-hmm. aller arpenter le HLM, le parc. Bon, tous les endroits qui sont autour, le pourtour du HLM, pour aller faire de l'intervention directement et aussi calmer le jeu, parce qu'il y avait des tensions. C'est un peu normal. Ça faisait presque 3 mois que les gens étaient enfermés à la maison.
Oui, ben oui.
Commence à faire beau. Généralement, l'été, les esprits s'échauffent un peu.
Mm-hmm.
Mais là, ça s'est rapidement échauffé. Ce qui fait que, par exemple, au GCC, il y a eu du travail de milieu pendant 4 soirs de 6h à minuit, parce que c'était là qu'il y avait des attroupements et qu'il y avait plus de problèmes, on va dire. Tandis qu'à Boysville, c'était plus de jours, mais on a fait également du travail de milieu de soir.
Okay.
Donc, c'est vraiment, on s'est adapté à la vie du milieu. C'est ce qu'on fait tout le temps, mais on a continué à le faire même en contexte COVID. Évidemment, avec toutes les mesures sanitaires possibles et impossibles et qui changeaient
tout
aussi
le temps,
au fil du temps. Oui, exactement.
Puis est-ce que tu sais, comme tu parlais un peu là, des fois des attroupements, mais aussi des conflits entre les voisins, c'était des choses que vous voyiez déjà avant, mais là, il y en avait peut-être un peu plus à cause de la COVID? Parce
oui,
que,
ça fait partie de notre quotidien.
Partout,
oui, c'est ça, mais ça fait partie de notre quotidien d'avoir des attroupements, d'avoir des gens qui peuvent consommer dans le parc, par mm-hmm. exemple. C'est là, c'est notre réalité. Effectivement, avec la COVID, ça a pris une plus grande proportion, plus grande ampleur. Je pense que les gens étaient fatigués aussi.
Ouais.
Hein? C'est demandant, physiquement, psychologiquement, que d'être enfermé à la maison, de vivre dans la peur, parce que c'était ça beaucoup. Ouais. Même si on avait de l'information, on savait ce qu'il y avait à faire, les mesures, ces choses-là, n'en demeure pas moins que c'est un contexte qui est apeurant. Donc, je pense que tout ça qui a fait en sorte, ce contexte-là, oui, est venu comme augmenter la réaction des gens.
Oui, oui, oui. Ouais. Les frustrations aussi. Là,
exactement.
Tu dis comment ça, eux autres, ils sont,
ouais,
sont pleins. Puis là, toi, tu restes chez toi, mettons, pour, parce que tu as peur ou tu veux faire attention, tu veux suivre les mesures. Puis là, tu as des gens qui s'attroupent. Tu es là, ben là, voyons que... Parce que je sais qu'il y en avait qui appelaient la police. Ou, ben là, je parle pas de chez vous, là, ben dans ton emploi, là, mais je veux dire, en général,
oui, ils envoyaient ça. Oui, en général, là, oui, c'est ça. Oui, oui, les gens qui... Le
entre
citoyen,
voisins,
oui, c'est ça, qui se faisait policier,
oui,
tout
oui,
ça.
C'est ça,
oui,
t'sais,
oui.
Pis...
oui.
Puis, ouais. Puis sinon, si on revient un peu sur ton parcours,
oui,
j'aimerais ça qu'on parle un peu de... Parce que moi, je sais que tu as travaillé très longtemps comme intervenante,
ouais,
à Boysville.
Oui.
Puis, mais je pense...
Ben oui,
plutôt que
je
pense que je sais.
Écoute, moi, j'ai un diplôme en éducation spécialisée.
OK.
OK. Puis,
dans à Montréal, le cadre. Tu fais ça?
Oui, je l'ai fait au cégep du Vieux-Montréal.
OK, okay,
ouais,
c'est bon.
Dans le cadre de la formation, on a 3 stages à faire. Je me retrouve à faire mon premier stage dans une maison de quartier sur la rive sud à faire de l'aide aux devoirs pour une femme qui est extraordinaire, Brigitte Gendron, qui est comme mon premier modèle de femme que je vois dans le milieu communautaire. Je me rends compte que ça ratisse large, que ça prend une drame. Puis moi, ben, je me colle à ça. Moi, je suis là pour apprendre, mais je me colle à ça et je fais, mais c'est fantastique le communautaire. Puis une maison de quartier aussi, parce que bien que tu sois là pour de l'aide aux devoirs, c'est que tu travailles avec la personne et tout son environnement aussi. Donc,
okay,
tu as des parents qui débarquent, qui sont dépassés, des enfants qui sont là pour faire des devoirs, mais il faut que tu trouves des moyens, justement, à les centrer pour faire leurs devoirs. Fait que ça, là, c'est comme mon premier contact et je fais, mais qu'est-ce qui vient de s'ouvrir à moi? C'est quoi ce monde communautaire-là? Deuxième stage, je le fais dans une école spécialisée en troubles de comportement. C'est un stage qui est excessivement difficile pour moi parce que il y a une structure, il y a un encadrement. Mais je me dis, bon, je fais le stage... Mm-hmm. On verra où ça nous mènera. Écoute, j'ai réussi mon stage, mais je dois dire qu'à la mi-session, je suis en échec. Puis on me dit, là, Isabelle, il faut que tu te revires de bord parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Puis à partir du moment où je comprends que c'est la structure qui ne me convient pas, je fais, écoute, je vais vivre avec parce que de toute façon, dans le cadre de mon travail, je vais sans doute me retrouver avec des structures qui ne feront pas mon affaire, mais il va falloir que je travaille. Donc,
mm-hmm,
je passe au travers du stage. Troisième stage, je m'en vais au centre jeunesse. Et là, je m'y plais pas du tout. La semaine 3 du stage, je pleure tous les matins parce que je veux pas y aller. J'aime pas la structure. Tu sais, là, je suis vraiment pas bien. Je décide que j'abandonne tout ça en me disant, ben, ça me fait une technique sur 4 ans plutôt que 3 ans, mais je l'accepte.
Ben oui.
Et quand je décide d'arrêter le cégep pour une année, moi, j'étais restée en contact avec la directrice de mon premier stage.
Okay.
Parce que j'avais continué à faire du bénévolat après.
Okay.
Et elle me dit, ben écoute, moi, j'ai changé de place. Je suis rendue à Montréal, à Boysville. C'est un HLM dans Hochelaga-Maisonneuve. On veut faire un camp de jour. Viens travailler avec moi. Et là, je fais, ah ouais. Fait que, écoute, elle me donne rendez-vous pour que j'aille visiter le milieu.
C'est quoi, je pense que j'allume, je pense que je la connais. Je pense qu'elle est rendue en CLSC, hein?
Oui.
Ah oui, c'est ça.
Oui.
OK, c'est bon. Oui.
Oui.
OK, c'est bon.
Donc, okay, moi, je connais Hochelaga-Maisonneuve parce que j'ai grandi dans Hochelaga-Maisonneuve. Bien que j'habite la Rive-Sud, bien de mes activités se passaient dans Hochelaga-Maisonneuve. Mes parents ont un attachement pour le quartier, ces choses-là. Bon. Et je savais même pas que ça existait. En fait, je savais pas qu'il y avait quelque chose qui existait dans Hochelaga-Maisonneuve à l'est de Pinneuf.
Mmh.
OK, je connaissais pas cette portion-là. Et là, j'arrive et je vois ce HLM-là. Et tout de suite, je passe l'entrevue, j'ai l'emploi, je fais le camp de jour et je suis comme, mais où est-ce que je viens d'atterrir? ma plus belle comparaison, à l'époque, c'était de dire, je viens d'atterrir dans un gros terrain de camping, mais à Montréal.
OK, OK.
Parce que les gens étaient dehors, les gens occupaient l'espace, tout le monde se parlait, il y avait vraiment une vie de communauté. Puis moi, c'était ça qui m'avait marqué. Puis quand je le dis, c'est vraiment pas méchant, je le dis avec amour, mais c'est oui, c'est un gros terrain de camping parce que tout le monde se connaît. Tu sens qu'il y a une connexion quand tu rentres dans un HLM. Donc, c'est comme ça que je suis entrée en contact avec Boys Vio. Donc, j'ai commencé à l'animation. Quand le camp de jour s'est terminé, j'ai fait de l'animation. À cette époque-là, il y avait secteur enfant, secteur ado, mais les deux secteurs se partageaient le même local et c'était la même intervenante et la même personne à l'animation qui faisait les deux groupes d'âge.
OK.
Et on m'offre l'emploi. Donc, j'ai accepté cet emploi-là.
Fait que c'était des groupes, mais que, mettons, t'étais avec un groupe d'âge, puis après ça...
Oui, c'est ça, une journée. Par exemple, le mardi, tu fais les adolescents, le mercredi, les enfants. Donc, ça se vivait comme ça. Et il y avait comme seulement qu'un local.
OK.
Puis quand je dis là, un local, là, c'est tout petit, la grandeur d'un salon. On avait une table là-dedans,
c'était
puis on s'organisait.
C'était pas où c'est présentement, là. C'était c'est... pas le...
Oui, c'était ce local-là, okay. Mais c'était pas développé comme ça. On n'avait pas poussé à occuper les pièces. Puis à prendre possession des autres locaux. C'était pas ça quand j'ai commencé. Donc, moi, j'y suis de 98 à 2000 comme animatrice. Il y a un financement pour un projet en prévention de la toxicomanie. On me donne le projet, je mène le projet avec des adolescents, tout va bien. Et vient le temps de retourner à l'école. C'est comme... Mon dernier stage, j'ai fait un an, puis ensuite de ça, j'ai recommencé l'école, mais je faisais le cégep et je faisais le travail à Boys Vio. Et là, vient le temps de faire le dernier stage où je me retrouve dans un organisme communautaire à Montréal-Nord qui, à l'époque, s'appelait le Centre Maribourg, qui est aujourd'hui l'Institut Pacifique.
Okay.
Donc, je me retrouve dans cette grande maison-là du boulevard Gouin, dans ce milieu communautaire-là, où à partir de 3h30, ça grouille d'enfants, il y a plein d'intervenants, et là, je retrouve ce que je cherchais. Et là, je fais, et voilà, moi, je suis en amour avec le communautaire. C'est ça. C'est là où je veux aller. C'est là où je veux me dédier. Donc, je fais mon stage. Mon stage se passe très, très bien. Et à la fin de mon stage, on m'offre un emploi à temps partiel. Donc, je fais ma dernière session de cégep.
Puis, à l'Institut Pacifique.
À l'Institut Pacifique. Qui s'appelait le Centre Maribourg à l'époque.
Okay.
Ouais. Donc, je fais ma dernière session de cégep à temps plein avec le projet de fin d'études et j'ai deux emplois au Centre Maribourg et à Boys Vio.
OK.
Oui. Ouais, je fais ça.
Tu es habituée.
Ouais, je suis habituée. Je suis habituée.
Oui, oui.
Ouais, à ce que ça roule puis à être toujours occupée. Oui, oui, j'ai l'habitude. Et
mais c'est
là...
le fun en même temps, hein. Tu sais, c'est le fun d'avoir deux, tu sais, ce contexte-là, tu sais, d'avoir deux emplois, là, moi, ça m'est déjà arrivé aussi, du temps partiel, tu sais, de faire deux endroits, puis je trouvais ça le fun, tu sais, d'avoir c'est deux milieux complètement différents, deux gangs. Tu sais, ça change d'heure aussi.
Oui, aussi. C'est ultra intéressant pour ça. Donc là, je mène ma fin de deck, tout va bien, et le Centre Maribourg m'offre un contrat à temps plein. Et là, je fais « OK, oui, c'est ce que je veux ». Donc, je démissionne de Boys Vio pour aller me consacrer pleinement à Maribourg. J'y ai été employée de 2000 à 2005. Ça a été pour moi une belle histoire d'amour, mais une belle histoire d'amour qui s'est, je vais le dire, qui s'est mal terminée, en sens où, je me suis auto-sabotée parce que j'étais fatiguée. J'avais eu un 4 ans de cégep assez intense parce que je cumulais le cégep à temps plein. J'avais un à deux emplois. J'étais fatiguée. À ce moment-là, j'étais trop jeune et je n'étais pas capable de m'arrêter. Donc, je disais oui à tout. Je voulais tout faire. Donc, je me suis retrouvée très jeune chef d'équipe, alors que j'aurais pas dû être chef d'équipe à l'âge de 23 ans.
C'est
comme irréaliste tout ça. Et plutôt que de m'arrêter, je me suis auto-sabotée, on va dire, et ça fait que mon contrat n'a pas été renouvelé. Ce qui est une bonne chose au bout de 5 ans. Moi, ça m'a permis de quand on m'a dit, ben non, tu n'es pas renouvelée, c'est terminé. Quand j'ai terminé en juin, j'ai pris 2 mois et demi à la maison à rien faire. Et c'était la chose à faire parce que sinon, je n'aurais pas... aujourd'hui, je ne serais pas là pour te parler du communautaire puis être encore dans le communautaire.
Mm-hmm.
Fait que, ouais, c'était très jeune, 23 ans, mais ça a tellement été intense. Parce que moi, je suis vraiment... Quand j'ai commencé le cégep en 1996, à partir du moment où tu étais en technique d'éducation spécialisée, c'était facile de trouver un emploi dans le domaine.
Ouais,
c'était
ouais,
à cette époque-là où pratiquement tous les étudiants étaient engagés au centre jeunesse à temps partiel. Tu sais, là, ça allait rapidement.
Ouais, ouais.
Donc, rapidement, j'étais déjà un employé, je travaillais, je finissais mes études. Fait que je me suis comme un peu brûlée, on va se dire ça. Puis avec toute cette fougue-là, « je vais sauver le monde », alors que c'est pas ça.
Non, c'est ça. Hein?
C'est pas ça. Mm-hmm. Mais tu commences, puis on passe tous un peu par là.
Ouais.
Fait que c'est correct. Moi, j'ai pris ce 2 mois-là et Brigitte, avant que je suis à la maison, que j'ai plus d'emploi, puis elle me dit, ben écoute, Isabelle, j'ai un poste pour toi, viens me voir. Mais que je dis, ben je peux aller te voir quand? Elle dit, ben viens aujourd'hui. Fait que je me redéplace à Boissevillo. Et ce qui est très drôle, j'arrive à l'avance en me disant, je vais faire le tour du plan HLM et je recroise les gens. Puis même si ça fait 5 ans que je suis plus là, les gens me reconnaissent. Puis c'est comme si je n'étais jamais partie de Boissevillo. Fait que ça, déjà, tu te fais happer par ça puis tu te dis, OK.
Ouais, ouais, ouais.
Et là, je rencontre Brigitte. Brigitte me dit, ben voici ce que je peux t'offrir. Un poste en intervention auprès des enfants. Voici le salaire que je peux t'offrir. Et moi, je me dis, ben écoute, j'ai rien pour l'instant. J'encaisse une perte de salaire de 6 $ de l'heure. J'avais 6 $ en moins, mais j'étais... Bon, ce sera temporaire, puis je le prends. Je connais le milieu, ça va être confortable. Le temps de, moi, me rebâtir.
Mm-hmm.
Et je suis toujours là.
Oui, c'est ça. Puis là, t'es 2005, ça, l'enfant?
Oui, 2005. Okay. 2005, j'ai effectué un retour comme intervenante en enfant, avec les enfants. Un an après, la nouvelle direction qui prend la relève de Brigitte décide de fusionner intervention enfance-famille.
Mm-hmm.
Donc, je me retrouve à faire l'intervention auprès des enfants et auprès des familles. Et elle arrive avec l'idée d'instaurer un genre de travail de rue, mais spécifiquement dans le HLM et dans le parc, et de voir comment, sur des plages horaires, on est à l'extérieur et qu'on se déplace chez les gens pour aller faire de l'intervention. Si ce n'est que de plutôt qu'appeler un parent pour lui donner des nouvelles de son enfant, de dire, ben je me déplace à la maison puis je vais lui donner le feedback de vive voix.
Okay.
Donc, on met tout ça en place, le travail se transforme tranquillement, pas vite. Et là, dans ce parcours-là, on m'envoie sur des concertations. Donc, j'apprends ce que c'est qu'un modèle de concertation, à travailler aussi en concertation et en collaboration avec des gens de l'externe. On m'incite à aller cogner chez les autres intervenants qui travaillent avec nos familles pour travailler en complémentarité, chose que j'avais jamais fait. Donc, de faire OK, on y va, on va de l'avant, chose que pas tout le monde fait aussi, ça, on le sait. Ensuite de ça, ben étant dans le communautaire et avec l'idée de développer des activités pour la vie en général dans le HLM, se met en place des sorties, des événements, un festival de films. Il y a quelqu'un qui vient faire...
Il y avait eu ça dans Boissevillo?
Ouais, on a fait... Oui. Ça a commencé par le festival de films qui s'est transformé en festival d'art.
OK.
Ça se faisait à l'époque avec Caroline Truchon qui venait faire sa recherche de doctorat à Boissevillo sur le vivre ensemble.
OK.
Donc, pendant l'été, elle faisait des petites vidéos, entre autres, avec les jeunes, ces choses-là. Puis, à un moment donné, on se disait, ben, il n'y a rien de trop beau. Faisons un festival de films. Donnons la parole aux gens des HLM. Donc, ça a été, écoute, un gros festival avec tapis rouge, visionnement en externe. Oh,
c'était
oui.
Quand, ça fait-tu?
Ça, écoute, là, dans mes dates, là.
Mais une dizaine d'années?
C'est 2008, 2009, 2010.
Okay.
Pendant trois ans. année. Okay, okay. Oui. Et il y a du financement. C'était facile d'avoir du financement pour pouvoir faire cet événement-là. Donc, on l'a mené pendant 3 ans.
Okay.
Dès l'arrivée de Caroline, Caroline avait pressenti que j'avais un talent pour la communication et m'offre, entre autres, d'être en charge des relations avec les journalistes pour une recherche qui a eu lieu dans le HLM qui mettait en lumière tout le travail des organismes dans les milieux HLM.
Okay.
Donc, je me retrouve, moi, à faire des appels pour avoir des journalistes qui viennent couvrir la conférence de presse, booker des entrevues, accompagner la chercheure à la radio. Et je m'initie. Et j'ai Caroline qui me coach à l'arrière et me donne le même mandat dans le cadre du Festival de films et Festival des arts. Donc là, je dois me démener. C'est moi qui fais les entrevues. C'est moi qui va chercher les gens. Ouais, je me retrouve à faire ça. Et j'aime ça. Okay. J'aime ça, qui était un volet de com, qui était comme... Moi, c'était nouveau dans ma vie, puis voulais. Puis en même temps, je faisais mon rôle d'intervenante, ça allait bien. Mais ce bout-là d'être en charge... J'étais comme, oh mon Dieu, okay. On est dans un autre univers, tu sais, de devoir appeler à la salle de presse, à Radio-Can ou à TVA, puis de vendre ton, faire ton pitch de vente, puis mm-hmm. essayer d'avoir des journalistes.
J'avais vu de quoi passer, mais je pense pas que c'était ça, mais il me semble que tu as publié une photo que TVA était venue à.
Oui, ça, c'était Boisvio. Dans le cadre d'un ça, des événements de Boisvio.
Okay. Plus récent, là, peut-être ça fait quelques années.
Ouais, on est plus 2000.
C'est pas grave.
Peut-être 2014, dans ces eaux-là. Je me trompe sur les dates. Mais tu vois, c'est ça, c'est que ça fait trop longtemps. Je me trompe dans les dates. J'ai plein de souvenirs, mais de le situer sur une ligne de temps, des fois, ça devient difficile. Fait que, voilà. Fait que dans le cadre de mon travail, c'est que là, j'ai comme tout ce rôle-là qui est, toute l'intervention, ce rôle de faire de la com aussi, qui prend de la place. Je me rends compte que j'aime ça. Je suis de plus en plus à l'aise dans ce rôle-là. La directrice quitte en congé de maternité. Je suis toujours à l'intervention. Et là, parmi tout ça, je gère des animateurs, gère des stagiaires, parce que ça, c'est mon dada, de recevoir des stagiaires et de les former dans le cadre de leur stage. Fait que je reçois des stagiaires aussi. Je forme les équipes de travail et là, la directrice part en congé de maternité. Donc, il y a une directrice qui est là en intérim. C'est pas moi, c'est une autre. Cette personne-là a un peu moins d'expérience en intervention, donc me demande officiellement de prendre en charge toute l'intervention de l'organisme. Qui fait que je me retrouve à faire des supervisions.
À ce moment-là, t'étais...
J'étais intervenante.
T'étais intervenante?
Non, j'étais intervenante enfance-famille. Donc, mais c'est ça, je fais l'encadrement de l'ensemble de l'intervention de l'organisme. Donc, peu importe l'âge, les intervenants font affaire avec moi, les anime aussi. C'est moi qui donne les lignes directrices. Bon, j'encadre tout ça. Quand la directrice revient de son congé de maladie et se rend compte de tout ce que j'ai fait dans l'année, me dit, ben écoute, ça nous prend quelqu'un en coordination clinique dans l'organisme. Je te donne le poste. Et c'est aussi qu'à ce moment-là, moi, j'annonce que je suis enceinte et j'annonce que je ne veux pas partir en congé préventif. Moi, je veux continuer à travailler parce que je considère qu'il n'y en a pas de risque. Donc, ça tombe bien, on me change de poste, coordonnatrice clinique. Je le fais un peu, mais je quitte en congé de maternité parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Et pendant mon congé de maternité, est-ce que ce sont les hormones? Sans doute. Après l'accouchement, rapidement, je me dis, mais est-ce que j'ai encore ma place à Boisvio? Est-ce que je retourne à Boisvio? Donc, j'appelle la directrice, je dis, là, faut qu'on aille manger. Écoute, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que j'ai encore ma place à Boisvio? Puis elle me dit, mais voyons, Isabelle. Fait que là, on en jase et tout ça. Et elle m'annonce qu'elle repartira en congé de maternité et que son poste va s'ouvrir un intérim d'un an. Et elle me dit, tu devrais appliquer. C'est la prochaine étape pour toi. Vas-y, applique.
C'est même plus gagnant de prendre quelqu'un qui est dans l'organisme, qui connaît le staff, qui a déjà un rôle. Tu sais, c'est comme...
Oui, c'est ça. Le lien est là avec tout le monde.
Mais oui.
Toute la connaissance de l'intervention parce que...
Du milieu.
Du milieu aussi, qui n'est pas évident. Tu sais, un HLM, là, ça peut prendre jusqu'à 2 ans facile pour bien le connaître, ton HLM et tes gens. Fait que je décide de me lancer. Mais moi, je suis en congé de maternité. Donc, je fais ma démarche, j'envoie mon CV, on me
convoque en entrevue. Et moi, je mets carte sur table en disant que, ouais, je pense que je suis rendue là, puis voici ce que moi, je peux apporter, c'est-à-dire la continuité dans l'intervention, le lien que j'ai, mais que j'ai zéro connaissance en administration.
Ouais.
Zéro.
Oh,
OK, je sais ce que c'est qu'un état financier. Je sais pas comment le lire. Je comprends rien je le vois parce que j'ai été longtemps l'employé sur le conseil d'administration. Je comprends rien.
Oui.
Pour moi là, c'est pour vrai, écoute, c'est une langue étrangère, c'est des chiffres, ça s'additionne, OK, ça s'arrête là. Je sais pas comment faire un budget, je sais pas comment ça marche des demandes de financement.
Ouais,
tu sais, j'ai pas cet aspect-là, mais pas du tout. Mais moi, je le nomme au CA en disant que je suis prête à faire de la formation puis à avoir un accompagnement, puis que de toute façon, c'est un intérim. Donc, il y a sans doute quelqu'un au CA qui va pouvoir m'accompagner et m'aider dans la prochaine année pour tenir le fort. Et le CA décide d'aller de l'avant. Donc, je fais un an. Au bout de l'année, la personne annonce qu'elle ne revient pas en poste. Le CA décide de me maintenir encore intérimaire pour une autre année. Parce que, oui, j'avais fait des apprentissages, mais je devais encore aller suivre des formations d'appoint pour maîtriser mes choses et tout ça. Donc, je vais faire les formations pour être plus à niveau encore. Et au bout de 2 ans d'intérim, le CA décide de me nommer officiellement directrice du Centre des jeunes Boisio. Fait que c'est comme ça. Ça a été mon histoire et c'est encore mon histoire. Donc, depuis 2005, je suis en continu à Boisio et j'ai gravi tous les échelons.
Puis juste une parenthèse comme ça, mais je me demande, tu parlais du budget, tu parlais des états financiers, tu sais, de financement puis tout. Aujourd'hui, comment tu deals avec ça? C'est-tu quelque chose que, tu sais, là, maintenant, ça fait plusieurs années puis tout, là, tu dois avoir comme une bonne compréhension.
Ouais, ça fait 10 ans. J'ai une compréhension. Je sais lire des états financiers. Je sais lire un peu plus entre les lignes. C'est facile pour moi de faire mon budget, de faire mes projections. Il y a des fois encore des questions. Il y a des fois des choses que j'ai comme, tu sais, que j'ai peut-être mal évalué parce que c'était pas clair pour moi. Mais c'est d'aller chercher des outils ou d'aller chercher des personnes qui vont pouvoir répondre à ta question. Tu sais, j'ai pas des questions.
Qu'est-ce qui t'a aidé à ce moment? Tu sais, comme tu dis, tu es allé faire des formations, tu es allé. C'est ça un peu, tu t'es fié à des gens du milieu que eux, tu savais qu'ils.
Mais en fait, je suis allée me chercher des formations à l'externe.
À l'externe,
déjà, avec des professionnels. Tu sais, par exemple, le Centre Saint-Pierre est un bon lieu de formation qui a des trucs super intéressants, si ce n'est que d'aller suivre la formation Comment lire un état financier.
OK.
T'sais, qui était comme la base. Puis après ça, ben, c'est à moi de voir, d'évaluer qu'est-ce que j'avais envie de développer. Tu sais, je suis allée suivre une formation d'appoint sur le programme Simple Comptable.
Okay. C'est
comme moi, je veux savoir comment ça se vit, comment ça s'utilise, parce que c'est le programme avec lequel le responsable de la comptabilité chez nous travaille avec ce programme-là. Mais moi, je veux savoir de quoi je parle. Fait que j'ai fait de la formation. J'aime aussi l'auto-formation. Je fais beaucoup de lectures, tu sais. Ça, c'est. Écoute, j'arrête pas de le dire, mais tu sais, Excel, je le maîtrise parce qu'un jour, on m'a fait un cadeau, c'est Excel pour les nuls. Mm-hmm. Mais j'ai lu le livre, puis ensuite de ça, j'ai fait OK, ben j'y vais, je l'essaie, puis. Donc, il y a ça aussi comme intervenant, comme cordeau, comme directeur. Il faut aussi avoir cette envie-là de se former.
Ouais.
Puis de peut-être pas attendre qu'il y ait une formation. C'est d'aller chercher de la lecture, par exemple, ces choses-là.
Un peu partout,
peu partout, être curieux. Puis aussi de pas avoir peur de, excuse-moi l'expression, mais de bisouner. Tu sais, de l'essayer. Il faut que tu l'essayes. Tu peux te planter. Mais après ça, c'est d'aller chercher aussi des alliés, des gens qui vont pouvoir t'aider là-dedans. Puis je pense que le meilleur des cadeaux, c'est de se dire, ben je sais pas comment faire.
C'est
à partir du moment où c'est clair, tu te caches pas.
Mm-hmm.
Puis
tu contournes
c'est dit,
pas.
Ben non, tu contournes pas. Puis tu fais comme, ben excuse-moi, je peux pas le faire. Je sais pas comment le faire. Peux-tu me le montrer?
Mm-hmm.
Ça, c'est la meilleure des choses déjà d'emblée.
Oui.
Puis ben évidemment, ben c'est ça. J'ai fait, écoute, la direction. Puis il y a 2 ans. Il y a 2 ans, J'avais fait le tour de l'organisme. J'avais fait le tour à Boys Bio. Okay. Et il y a 2 ans, je remettais ma démission au conseil d'administration. Ouais. Mais étant la personne que je suis et ayant beaucoup d'années derrière moi à Boys Bio, c'était pas, je partais pas avec un... Ben, je pouvais pas, de toute façon, 2 semaines de préavis. Ouais. Mais je leur donnais 1 mois par année de service. Ce qui leur donnait comme 12 mois pour s'organiser en disant, ben voici, moi, le plan. C'est que je vais vous mettre les choses en ordre, ce que je considère qui doit être mis en ordre. Je vais vous accompagner et vous aider pour trouver une nouvelle direction. Je vais vous donner tant de temps pour la former. Et ensuite de ça, je quitterai. Okay. Donc, ça, c'était ça. Donc, il y a 2 ans, j'ai donné ma démission. Écoute, ma lettre est encore dans mon dossier. Okay. Elle est là. C'était annoncé. Parce que je considérais que j'avais fait le tour et que j'avais plus rien à apporter à Boys Bio. Boys Bio, à l'heure actuelle, s'est développé. Et si Boys Bio veut se développer encore plus, je pense que ça va prendre une nouvelle tête. J'ai beau avoir plein d'idées, mais à un moment donné, ça te prend quelqu'un de complètement nouveau. Peut-être pas pour tout virer de bord puis tout changer, mais je pense qu'à un moment donné, ça prend... Oui, c'est ça, ça prend du sang neuf.
Ouais, oui.
Je pense que tout le monde est remplaçable.
Oui. Fait que, ça, je suis d'accord.
Fait que j'avais annoncé
mais
ça.
Tout le monde est remplaçable, mais tu sais... Tout le monde est remplaçable, mais peut-être par pas beaucoup de gens. Tu sais, mettons, comme pour te remplacer, là, je sais pas le nombre de candidats à trouver. C'est quand même le temps de former, tu sais, de...
Oui,
aussi, puis d'accompagner, connaître le milieu. Mais en tout cas, oui,
je pense que chaque personne qui passe laisse sa marque, marque une époque. Mm-hmm. Là, moi, on parle en termes d'époque. Là, je suis à 17 ans de service.
C'est quand même énorme. Il y a des gens que tu as vu naître. Que là, maintenant, tu sais, il y a du monde que tu... Des enfants... Hey,
écoute, je berce les enfants des enfants que j'ai eus il y a 17 ans.
C'est ça, ben oui, il y a 17 ans.
C'est à ce point-là. Oh, puis oui. Le lien est assez fort que j'ai presque bercé tous les enfants des enfants et des adolescents que j'ai eus.
Oh,
ils font
oui.
un plaisir pour venir me voir, me présenter leurs enfants.
Oui.
Je suis rendue là. Dans ce milieu-là.
C'est ça. Mais je suis d'accord que ce que tu dis,
ouais.
Il n'y a personne qui est irremplaçable, c'est sûr. Tu sais.
Non, c'est ça.
Oh, oui.
C'est ça. Puis, c'est ça. J'avais annoncé ça. Donc, moi, je me préparais à ça. Puis, moi, une idée qui a toujours été là puis qui avait été semée par une ancienne direction du CJBV, c'était de dire qu'il faut trouver une façon pour prendre l'expansion. Ça prend d'autres organismes communautaires en milieu HLM. Mm-hmm. Le CJBV a une bonne expertise. On a un beau modèle d'intervention qui fonctionne, qui est en proximité. Il faut trouver une façon de le déployer. Puis ça, ça a toujours été là. Puis je me disais, avec le financement, ces choses-là, c'est un peu plus compliqué, je pense, que de repartir. Mais tu sais, j'ai toujours eu ce souhait-là qui était là, puis de dire, ah oui, un jour, ça pourrait arriver, avoir un CJBV dans un autre HLM sur l'île de Montréal. Puis pourquoi pas à l'international? Tu sais, sait-on jamais? On a le droit de rêver.
Ben oui, on a le droit de rêver.
Et là, je me retrouve dans une situation où l'organisme avec lequel je travaille, qui est un partenaire depuis plus de 25 ans, qui est le GCC La Violence, qui est un organisme similaire au CJBV.
Dans le même quartier, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
le CJBV est au nord-est du quartier et que le GCC est au sud-ouest. Donc, c'est le même quartier, mais avec 2 réalités complètement différentes. Se retrouve sans direction. Et là, moi, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Bon, je me rends compte qu'il se passe beaucoup de choses au GCC, c'est difficile. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais, moi, apporter au GCC? Je les connaissais, donc je me disais, bien, je peut sans doute apporter quelque chose. Est-ce que c'est un support à l'équipe en attendant qu'on trouve une direction? Et là, l'idée de dire, est-ce que je pourrais pas gérer les 2 organismes? Est-ce que ce serait faisable? Et là, moi, c'est là. Donc, je m'assois avec quelqu'un qui est très ferré dans le communautaire. Puis je lui dis, ben écoute, moi, j'ai cette idée-là. Est-ce que je pourrais gérer les 2 organismes? Et là, l'idée émerge de faire une présentation, de faire une proposition aux deux conseils d'administration de tenter un processus de mutualisation de direction des deux organismes.
Okay.
Avec l'importance de « il ne faut pas dénaturer les organismes ». Alors, l'idée, ce n'est pas de dire que CJBV et GCC vont fusionner. C'est pas ça. C'est deux entités indépendantes. Elles sont dans des milieux ultra différents, donc elles doivent conserver leur couleur. C'est vraiment que la partie administration. Donc...
Pas les intervenants.
Pas les intervenants non plus. C'est vraiment juste le volet administration. T'sais, pour te donner un exemple, déjà, là, GCC et CJBV ont 4 financements en commun, là, parce qu'on a un projet d'intervention qui est développé, puis on le fait financer. Mm-hmm. Donc, on sépare l'argent déjà à deux, OK? Okay. Ça, c'est, oui, c'est, oui, c'est, ça, c'est dans notre façon de faire. Ouais, c'est historiquement, c'est oui, là. Puis, c'est ça. On a fait cette présentation-là en disant, on a la même direction. Les deux équipes sont à... Les deux organismes sont à des endroits différents. Mm-hmm. On pense que les contextes s'y prêtent bien et que ça pourrait bien se faire, mais vraiment seulement que le volet administratif.
Fait que ça veut dire, mettons... Toi, est-ce que c'est d'autres gens aussi?
Ou non, c'est seulement toi. En fait, c'était juste mon poste. Ça, quand on parle d'administration, il y avait juste moi.
Oui, oui.
Avec toute cette donne-là de, plutôt que d'être nommée directrice, t'es nommée directrice générale.
Okay.
Donc, on a monté quelque chose. J'ai un consultant qui travaille avec moi. On a fait une présentation au conseil d'administration de ce que ça pourrait représenter. Et les deux conseils d'administration ont accepté d'aller de l'avant, de faire « allons-y ». D'un côté, au CJBV, ils se disaient « si ça nous permet... » de garder Isabelle un petit peu plus longtemps et de continuer à profiter de son expertise. Mm-hmm. On est content. Puis de l'autre côté, de l'autre côté aussi, il allait profiter de mon expertise, de mon arrivée, parce que là, ça faisait un petit bout de temps où le navire était comme un peu seul. Je dis pas que l'équipe l'a pas bien mené, c'est pas ça, mais il manquait un capitaine à bord. Mm. Donc voilà, et ça a été accepté par les CA qui fait que le 12 ou le 17 février 2020, j'ai été officiellement nommée directrice générale du CJBV et du GCC La Violence.
Un mois avant la COVID.
Ouais,
c'est ça. Puis là, dans le fond, là, il y a eu le début de la pandémie où toi, c'était un peu, ça coïncidait un peu avec ton arrivée au GCC.
Ouais.
Puis là, tu disais que tantôt, il y a des courriels que tu envoyais aux employés. C'était le premier courriel. Tu sais, tu racontais ça avant le...
En fait, c'est ça. Moi, je suis arrivée dans un contexte à temps partiel au GCC, qui fait que je dois m'approprier un organisme au complet, là, son fonctionnement, sa structure, tout. Fait que c'est beaucoup en même temps. Donc là, en étant là 19 heures par semaine, tu rencontres un premier employé, t'as prévu une rencontre d'une heure, finalement, ça en prend 3 heures parce que les gens ont beaucoup de choses à dire. Puis il y avait quand même une bonne équipe, là. On parle quand même de 11 employés au GCC aussi. Puis de commencer à régler aussi le problème quotidien. Il y a des choses que les membres de l'équipe portaient, mais ça prenait une direction pour pouvoir le porter. Ça prenait une boîte courriel à lire où il y avait 300 courriels. Tu sais, je veux dire, il y a comme tout ça. Fait que moi, j'arrive dans ce contexte-là où depuis le mois de décembre, qu'il n'y a plus de direction, l'équipe porte, mais là, l'équipe a besoin de souffler. Puis une des façons de souffler, c'est de venir s'asseoir dans mon bureau puis de dire tout ce qu'ils ont vécu.
Ça peut prendre
du temps. Fait qu'effectivement, le 13 mars, quand on a été fermé, il y a encore des employés que je n'avais pas rencontrés au GCC. Donc, mon premier contact, ça aura été ça, le vendredi 13 mars à 13h10, d'envoyer un courriel en disant « Premièrement, je me présente officiellement. Je suis Isabelle Dauplaise, votre nouvelle directrice générale. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Je vous annonce que vous êtes en congé pour une période indéterminée. Vous devez demeurer à la maison.
Mm-hmm.
Je vous tiendrai informé de la situation dès que j'ai des nouvelles. » C'est un peu aberrant de dire, écoute, j'ai pas rencontré encore mes employés, puis je suis obligée de leur dire, vous vous en allez à la maison, tu sais.
Ouais,
s'arrête là. Mm-hmm. Puis je sais pas quand est-ce que vous allez revenir au travail.
Non, c'est ça.
Tu sais, c'est comme...
Eux, en même temps, ils savaient que c'était quelque chose qui se passait partout, là, tu sais, ils devaient le voir.
Oui, aussi. Tu sais, mais c'est juste que...
C'est un drôle
de con. T'as pas envie de vivre ça comme premier contact avec tes employés. Tu sais, tu viens d'arriver. Moi, j'ai toute cette énergie-là de la nouvelle. J'ai un mandat qui est ultra précis au GCC. Ça m'allume vraiment beaucoup. Mais j'avais déjà dit, moi, le premier mois, je rentre pas dans la tâche administrative. Le premier mois, c'est je vais aller voir les services, je vais être en présence, je veux parler avec l'équipe. Moi, c'était vraiment ça. Puis je me donnais 4 semaines pour le faire. De dire, je touche même pas au courriel. Je veux même pas lire les courriels. Mais là, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai pas eu le choix d'y prendre les courriels puis de gérer des appels parce que là, c'était, il faut fermer tout bord, tout côté. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, ben là, c'est tu te rends compte qu'il y a des besoins dans les milieux, puis là, la machine se met rapidement en branle, puis là, ben t'en as deux à gérer. Fait que tu gères la COVID dans tes deux milieux, tu gères tes deux équipes, fait que c'est 22 employés que tu gères à distance, par téléphone, Zoom. Tu y vas avec l'information que t'as de l'information au compte-gouttes, tu dis quelque chose, 2 heures après, ça change. Tu sais, ça a été ça, mais ça a été ça pour tout le monde de toute façon.
Oui.
Mais c'était ça. Ouais.
Puis, mettons, je me disais, tu sais, tu étais à temps plein à CJBV avant.
Ouais.
Puis là tu es comme à temps partiel à CJBV puis à temps partiel à GCC.
Mm-hmm.
Mais comment tu as passé de temps plein à temps... Tu sais, dans le fond, est-ce que tu fais la job... ou t'as délégué?
En fait, je suis à apprendre à déléguer.
Oui, ça doit être ça. Hein?
À lâcher prise sur certaines choses.
Okay.
J'étais, étant en temps plein à Bozio, j'en avais juste un. Hein, donc, j'étais encore très terrain. Moi, jusqu'en février, j'avais encore un caseload à Bozio.
Okay.
Parce que j'ai des gens que j'ai commencé avec eux quand j'étais intervenante. Le lien est là. Ils n'ont plus d'enfants à la maison, mais je continue avec les parents. Tu sais, j'avais pas un gros caseload, là.
J'avais
3 personnes dans mon caseload parce que j'étais capable de le faire. J'étais tout le temps dans le milieu. Je faisais tout, les achats, je prenais en charge les réparations.
Mm-hmm.
Puis quand le propriétaire les faisait pas, c'est moi qui les faisais réparations. Tu sais, là, j'étais partout en même temps. Mais j'avais le temps parce que le travail pour un organisme, je le connais. La séquence, je la connais. Mm. Je sais à quelle période de l'année je suis ultra occupée. Je sais à quelle période de l'année je risque de faire du temps supplémentaire, mais à quelle période de l'année je peux les reprendre mes heures. Tu sais, là, je le connais, le mouvement du milieu. Je connais le calendrier. Je connais tout ça. Tu sais, l'algorithme, là, je le maîtrise parfaitement.
Oui.
Donc, tu sais, ça allait bien. Là, je suis à apprendre à... Ouais, là, non, je peux pas les faire, les réparations. Puis oui, je dois faire confiance à l'équipe. Ouais, j'ai des coordonnateurs. J'ai un coordonnateur de service à Boisvideo, puis j'ai une coordonnatrice de service aussi au GCC.
Okay.
On est à voir leur description de tâches pour qu'elles reprennent, tu sais, un bout. Les comptes ne passeront plus directement à moi, mais il va comme avoir un intermédiaire. Mais c'est parce que moi, je dois me dégager aussi du terrain pour vraiment travailler l'administration. Parce que mon arrivée au GCC vient entre autres avec des mandats. Tu sais, dans la prochaine année, je vais revoir des conditions de travail, des règlements généraux, mettre des structures de travail en place, mettre des modes de fonctionnement, des descriptions. Tu sais, là, j'ai un mandat qui vient avec cette arrivée-là aussi, plus la gestion du quotidien. Fait que c'est ça, c'est pour ça que moi, j'ai actuellement un consultant. Les CA ont consenti à ce que j'ai un consultant qui m'apprend à devenir une directrice générale parce que la description de tâche, elle n'est pas la même. Fait que moi, à travers tout ça, j'ai des deuils à faire, des deuils de terrain, ces choses-là. Mais j'apprends. Fait que peut-être que, tu sais, la COVID aura pris aussi peut-être plus d'ampleur pour moi. Pourquoi j'ai fait plus d'heures? C'est parce que aussi, je me suis fait un devoir d'aller sur le terrain. Je pouvais pas. Pour moi, ça allait de soi que j'étais dans les HLM le vendredi pour aller faire la distribution alimentaire, les 70 paniers, j'étais là.
Mm-hmm.
Puis en même temps, pendant la COVID, on offrait le dépannage alimentaire, mais la question de dire si dans mes deux HLM, il y a un besoin, il y a peut-être d'autres besoins dans d'autres HLM. Fait que pendant la grosse crise, j'ai récupéré 3 HLM aînés dans l'arrondissement qui avaient des besoins de nourriture. Écoute, si moi, dans mes milieux, ma tour aînée aux habitations Joliette, on constate qu'entre 25 et 35 % de la population a besoin de bouffe.
Ça risque d'être
pas mal la même chose dans les autres, qui fait qu'on a approché 3 habitations qui n'ont pas d'organisme dans le milieu, mais qui ont des gens qui gèrent le comité locataire. Mm-hmm. On a approché les responsables des comités locataires en disant, ben écoutez, moi, j'ai l'argent, je peux vous fournir des plats et des denrées. Donc, j'avais besoin de toute l'équipe au GCC parce qu'au GCC, là, on est allé jusqu'à 80 dépannages par semaine.
Okay. Donc, ça se faisait, est-ce que c'était les gens venaient récupérer ou bien non, il y a beaucoup de gens, c'était
livré, allait porter. En fait, on allait porter aux aînés avec des mesures et tout ça parce que l'idée aussi, ça nous permettait d'aller constater l'état de nos personnes, voir est-ce qu'elles vont.
Ouais,
bien,
mais oui,
est-ce qu'ils sont
ça.
En santé?
L'isolement aussi, eux autres,
nous
des
répond?
Fois, c'était la seule
ben,
personne qui voyait.
C'est ça. Donc, on allait faire de la livraison à l'étage.
OK.
Puis, c'est ça, on s'est retrouvés aussi dans 4 autres HLM. Ça, c'est l'équipe de Boisvio, c'était des duos qui sont allés dans 3 autres habitations. Fait qu'on avait à Boisvio également, puis 3 autres HLM où on faisait du dépannage.
Puis vous en faisiez déjà, hein? En tout cas, je sais que Boisvio, vous en faisiez déjà du... Vous aviez un...
On a déjà eu un marché.
Un marché, c'est
ouais,
ça?
Oui, on a déjà eu un marché.
C'est-tu comme un peu un désert alimentaire, Boisvio?
Oui, oui, on est dans un désert alimentaire à Boisvio.
GCC, non?
Il y a beaucoup d'épiceries.
Ben, il y a le métro sur Sainte-Catherine.
Oui, il y a le Super C sur Pineuf, ces choses-là, d'où ça, l'initiative du marché solidaire auquel les deux organismes se sont greffés. Où au début du projet, c'est qu'il y a le marché physiquement au coin de Joliette et Adam, en face de la cuisine collective, mais les gens du HLM pouvaient commander tous les produits qui sont sur le marché, mais ils pouvaient le commander, le recevoir sous forme de panier, sans aucun engagement d'achat. Puis il n'y avait pas un montant minimum. T'sais, si tu avais envie de commander juste une banane, ben on passait ta banane dans la commande, puis on venait nous livrer, puis nous, on redonnait les paniers. Puis si tu avais juste commandé ta banane, on te donnait ta banane.
Là. OK, OK. Donc, c'était avec Moisson Montréal ou non?
C'était avec la cuisine collective.
C'était avec la
cuisine collective. Donc, les gens ont aimé ça, mais on se rend compte que les gens veulent avoir un kiosque. Donc, ça, c'est un projet sur lequel on essaie de travailler, entre autres pour Boisvio, pour qu'on ait un kiosque permanent, comme il y a actuellement au coin d'Adam et Joliette, en face de la cuisine collective. Donc, il y a un deuxième point de vente, c'est ça, dans le coin de Boisvio, qui est le parc Théodore. Donc, de voir comment on peut rendre ça accessible, oui, pour les gens du HLM, mais pour les gens autour. Donc, Boisvio aimerait bien être porteur du deuxième point, d'un autre point de vente, finalement, du marché solidaire.
Puis celui qu'il y a en face des cuisines collectives,
c'est le marché solidaire HLM.
Puis c'est tu disais, c'est du côté, c'est pas, parce que moi, je vois l'école en face, mais toi, c'est l'autre côté, dans le fond? Quand tu dis en face, c'est...
Ah, mais c'est sur la rue, en fait.
Oui, complètement sur la rue.
Là, ce bout de rue-là est fermé, même aux voitures, là, cette année.
C'est
nouveau.
Bon.
C'est nouveau, ouais. C'est ça, c'est fermé. Mais ça se faisait là. Sinon, l'année dernière, ça se faisait sur le parvis de l'église. Là.
OK, parfait.
Ouais.
Puis, je sais aussi, tantôt, on a parlé un peu de recrutement. Tu me disais que c'était... Tu sais, là, c'est quand même... On parlait un peu que c'était complexe, un peu en lien avec la COVID, tu sais, recrutement d'employés, là.
Mais écoute, le recrutement d'employés, je pense qu'au niveau du communautaire, c'est pas évident. Hein? On n'a pas nécessairement des conditions super favorable à l'embauche. Là. On essaie le plus possible d'avoir un salaire qui est décent puis des conditions qui sont décentes. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à venir travailler dans ces conditions-là. Ce qui fait que, oui, quand tu as un processus d'embauche, ben ça peut être plus long. Des fois, c'est pas quelque chose qui se règle en un mois. Des fois, ça peut en prendre 3. Des fois, 6. Puis c'est correct. On va avec. Ça fait partie de notre réalité. C'est ça, là, on ose espérer, tu sais, là, je pense actuellement, là, éventuellement au GCC, il va falloir que j'entre en processus d'embauche, peut-être aussi au CJBV, mais j'ose espérer que là, le contexte COVID est un peu plus un peu plus allégé, on va dire. C'est la fin de la PCU aussi, on va se le dire. Ouais. Donc, on ose espérer que les gens vont avoir envie de retourner sur le marché du travail. Puis que il y aura surtout des gens qui vont avoir développé un intérêt pour le milieu communautaire.
Mm-hmm.
Ah, on ne sait pas. On a le droit de rêver. Je me dis peut-être que le 2 mois, 3 mois d'arrêt, les gens ont vu ce qui s'est fait en termes d'initiative dans le communautaire.
Mm-hmm.
Puis peut-être que ça va avoir leur avoir envie... une envie de venir travailler, de joindre à nous. Là, on ne sait pas, on verra bien. Donc, j'ai hâte de voir comment va se vivre ce processus-là. Puis c'est différent d'une année à l'autre.
Ouais.
Fait que, on va voir.
Puis, as-tu des projets, tu sais, pour... là, est-ce que GCC, est-ce que c'est temporaire ou non? La direction, c'est pas un projet par intérim, hein?
Ben non, je suis officiellement directrice générale. On est sur un projet de 12 mois. Puis au bout du 12 mois, c'est que les deux CA se laissent la porte de dire est-ce que ça a été bénéfique pour les deux organismes? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête?
OK.
Fait qu'il y a comme ça qui, au mois de décembre, les CA auront une décision à prendre. Bon, si tu veux mon avis, moi, je pense que c'est assez difficile d'évaluer, de dire si ça fonctionne. On a été dans un contexte COVID qui est venu décaler des trucs de 5 mois, tu sais, qui n'est pas terminé. Oui. On ne sait même pas si on va retourner en confinement.
T'as-tu fait une AGA?
Non, j'ai pas fait ça. Mes assemblées générales. Générale. C'est, écoute, on vise octobre,
okay.
Tu sais. Puis on va voir comment on va l'organiser, là.
Oh,
fait que c'est ça qui est visé pour les deux organismes, mais on verra.
Ben oui.
Ouais. Ouais.
Que, ben, en tout cas, ben, merci beaucoup pour avoir participé au podcast. Là. C'était vraiment intéressant.
Ça m'a fait plaisir.
Puis, as-tu d'autres choses, des projets que tu aimerais parler ou on a pas mal fait le tour?
Ben, écoute, actuellement, la vie suit son cours. J'ai hâte de voir. T'sais, au GCC, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va s'en venir parce mm-hmm. qu'on travaille vraiment la base. On est dans des projets de peinture de locaux. C'est très au niveau des outils de travail, ces choses-là. Donc, on va voir. Il est certain que nos ateliers qui se font dans les écoles, on va devoir les réfléchir avec un nouveau format clé en main,
mm-hmm.
S'adapter à la réalité des écoles. Donc, ça, c'est un des gros projets qui va s'en venir pour le GCC. Pour le CJBV, mais le nouveau projet qui va voir le jour, ça va être le studio Boys Visio. Donc, l'idée de départ, c'était de faire des podcasts par et pour les jeunes.
Ouais.
Donc, d'avoir toute la technique dans nos locaux. Et là, on a reçu du financement supplémentaire qui nous permet vraiment de monter un studio multidisciplinaire. Donc oui, on veut conserver l'idée des podcasts, mais l'idée, c'est vraiment de l'étendre puis de permettre aux jeunes de toucher à plein de choses. Est-ce que c'est de la musique?
Mmh.
Est-ce que ce sera le podcast, le journalisme? Est-ce que ce sera la technique aussi? Donc, ça va être de travailler avec tout ça pour éventuellement en arriver à peut-être leur offrir comme un mini-parcours aussi de formation qui pourrait être reconnue.
Mmh.
C'est un peu comme le gardien-gardienne averti,
mais d'avoir
comme quelque chose de... Oui, plus
okay.
multimédia, sans avoir un diplôme là, qui vient avec, mais d'avoir une certaine reconnaissance. Fait que c'est ce qu'on voudrait. Puis, à plus long terme... et puis là, quand le podcast va sortir, je vais te partager ça. Là. Je veux que mes élus l'entendent, mais je veux que le studio soit dans le chalet du parc. Je veux que le chalet du parc Théodore devienne un lieu de rencontre multimédia pour nos jeunes, pour nos ados, nos oubliés, là, nos 12-25,
mm-hmm.
qu'on ait un endroit pour eux, puis que ce soit le CJBV qui le chapeaute. Pour ça, il faut commencer en quelque part. Donc, on commence là. Mais, tu sais, moi, je vois quelque chose de multimédia dans le parc, là, tu sais, avec une belle baie vitrée, là, où est-ce qu'on peut voir en dedans.
Ah, ouais.
Pis, écoute,
il y en a déjà un chalet.
Il y a un chalet.
Ouais,
oui, il y a un chalet.
OK.
Il y aura des travaux dans le chalet du parc.
Ah,
ça s'en vient. Okay. On sait qu'il y a des budgets pour ça.
Okay.
Donc, moi, j'ai nommé mes souhaits, puis je les renomme encore plus.
Tu fais bien.
Plus je vais le nommer,
plus
on a peut-être de chances que ça se réalise.
Oh, non, c'est bon. Mais, parfait. Puis, est-ce que tu veux qu'on mette les réseaux sociaux? Parce que je sais que vous êtes pas mal actifs, là, CJBV. Est-ce que tu invites à suivre la page
Boys Visio? C'est sûr qu'on invite à aller voir les sites Internet des deux organismes, d'aller voir les pages Facebook.
Je vais les mettre en bas dans la description.
Oui, parfait. On a même... le CJBV a même un compte Instagram. Donc,
Okay.
Oui, mais on s'est mis à l'air du temps. Donc, on
c'est
est
ça.
Sur sur les médias sociaux, effectivement.
Parfait. Fait
que je vous invite à aller voir ça.
Parfait. Ben merci beaucoup, Isabelle.
Mais merci à toi.
À bientôt.
Oui.
Bye-bye.
Bye.